Nous allons reprendre en musique.
Je vais pas chanter.
Mais nous sommes très contents d'accueillir à nouveau Olivier Zerbib. Olivier était déjà venu présenter il y a quelques années le tout début de cette recherche sur les publics de la musique en bibliothèque et sur la place des bibliothèques dans l'écosystème musical. Et il nous a paru important, avant de songer à la publication du livre qui est prévu aux presses de l'ENSIB et sur Open Edition à l'automne prochain, au mois d'octobre, c'est l'horizon que nous nous sommes fixés. Il nous a paru intéressant et important de faire en sorte qu'Olivier puisse revenir nous voir, se présenter à vous et nous présenter donc les résultats définitifs de cette enquête, sachant qu'on n'avait pas pu justement à l'époque présenter la phase quantitative qui ne faisait que démarrer.
C'est ça.
Voilà, donc c'est l'occasion de t'entendre à nouveau, sachant que Pierre Lequeo n'est pas disponible cet après-midi, mais que tu feras ça très bien. Merci Olivier.
Merci. Alors, je vais vous revenir rapidement sur le dispositif d'enquête, et puis après je vais vous réexpliquer le contexte dans lequel est intervenue cette enquête, et dans le contexte, on appelle ça de crise, on va dire, dans lesquels les bibliothèques sont intervenues pour développer des actions musicales. Je reviendrai sur ce qu'on a appelé les éléments d'une stratégie 360 degrés. Comme je sais que c'est un peu énigmatique, je vais peut-être commencer par ça. Et puis après, les variations avec lesquelles les établissements que nous avons observés répondent, en fait, aux transformations. Alors, je vais vous annoncer le principe des résultats tout de suite, comme ça, après, on rentrera dans le détail. Mais l'idée de la stratégie 360 degrés, c'est que, paradoxalement, on s'est rendu compte que les bibliothèques font la même chose que ce qu'a fait l'industrie musicale au moment de la crise du disque. Les grandes majors ont cherché à diversifier leurs activités pour répondre à la crise. Et en fait, ce qu'on observe dans les bibliothèques, c'est la même chose. Stratégie 360 degrés, ça veut dire occuper plusieurs segments de marché pour être sûr de continuer à avoir des activités au moment où les ventes de disques s'effondraient. Alors, un peu plus tard, et évidemment, on n'est pas dans un univers commercial, mais c'est un peu la même chose qu'on observe. C'est-à-dire des stratégies pour aller capter des publics autrement. Et ça passe beaucoup par ce qu'on a appelé le musiqué. J'y reviendrai. Alors, l'enquête. Je suis Olivier Zerbib, donc sociologue à l'Université Grenoble-Alpes. Et je suis aussi Pierre Lequeo, avec qui on a fait cette enquête, qui est aussi sociologue à l'Université Grenoble-Alpes, laboratoire PACT. Alors, l'objectif de cette enquête, c'était donc de non seulement d'étudier les transformations, mais aussi de donner des pistes au milieu professionnel pour réfléchir aux actions qui peuvent être conduites. On a développé cette enquête à l'initiative du service études et recherches de la Bibliothèque publique d'information et du ministère de la Culture, et avec l'appui des réseaux professionnels comme la CIM, le réseau des bibliothécaires musicaux dans les bibliothèques départementales. Voilà. Donc on avait un comité de travail, un groupe de travail qui nous a aidés à élaborer la stratégie de recherche. Alors on a d'abord choisi 6 médiathèques. On les a choisies, j'y reviendrai, parce qu'elles présentent des caractéristiques différentes. Et après, on a validé les orientations par une enquête quantitative. Alors, 6 bibliothèques choisies. Vous verrez qu'entre Lyon, Château-Giron, Gradignan, je m'excuse de temps en temps, je dis Draguignan. Je ne fais pas exprès. Je crois que je dois être dyslexique, c'est Gradignan. Dole, la bibliothèque départementale de l'Eure et Montreuil. Vous verrez que rien qu'en vous disant ces sites-là, entre Lyon, Château-Giron et Montreuil, on n'est pas du tout dans le même univers. Ce qu'on a cherché à faire, c'est prendre des cadres vraiment très très différents. Bibliothèque intégrée dans une banlieue, ouvrière, une bibliothèque dans un milieu plutôt rural, ville moyenne rurale, grande bibliothèque et grand réseau de bibliothèques pour Lyon. Avec à chaque fois quand même l'idée qu'on a des bibliothèques qui se distinguent par des actions particulières en faveur de la musique, des innovations, on va dire ça comme ça, donc très actives. Et puis après, donc on a rencontré 31 personnes, on a fait des observations, on a traité ces entretiens. Et par la suite, on a fait deux questionnaires. Un questionnaire qui vous a été adressé en tant que bibliothécaire, Alors, sur la base de l'Observatoire de la lecture publique, on a qualifié une population d'établissements susceptibles de développer des actions musicales, sachant que vous répondez chaque année à des enquêtes. Et donc, ça nous représentait, c'était une population d'un peu plus de 8000 établissements. On a eu 1049 répondants, donc un taux de réponse pour une enquête en ligne de 13%, ce qui est très très bon si vous connaissez un peu les taux de réponse et si vous faites de temps en temps des questionnaires en ligne, généralement autour entre 2 et 5%. Donc là, 13%, on est plutôt content. Sur ces 1049, on en a 77 qui déclarent avoir une activité dans le domaine de la musique. Donc 694 établissements, c'est sur ceux-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Alors, la base de départ, base Neoscript, donc notre population de départ, notre échantillon, et on a pondéré notre échantillon, donc on a corrigé de manière à avoir une représentation qui soit celle de la base de départ. D'accord ? Donc on n'avait pas assez de petits établissements qui ayant répondu, donc voilà, on a opéré des corrections. Et donc quand je parlerai de ces chiffres, c'est toujours l'échantillon pondéré. Neoscript, c'est... Alors, c'est un questionnaire qui est adressé aux établissements chaque année, si je ne me trompe pas, qui permet de qualifier un peu les activités des bibliothèques, fonds documentaires, les actions, est-ce qu'il y a une borne d'accès à Internet ou pas, voilà. Et donc, sur cette base-là, on a réduit, je crois que c'est un fichier au départ qui comprend 15 000 établissements avec un certain nombre d'informations, on l'a réduit donc à nos 8 000 en se disant que c'était des établissements qui auraient tous a priori une activité musicale, et il se trouve que il y avait des petits biais, et donc il n'y en avait finalement que près de 700 qui avaient eu une activité dans le domaine musical l'année précédente. On a complété ça par une enquête auprès des usagers, alors sachant qu'il y a pas mal de travaux qui sont déjà faits sur les usagers, mais on voulait un peu pouvoir mettre en comparaison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux établissements qui avaient répondu de diffuser l'enquête auprès des usagers. On aurait pu faire une enquête qu'auprès des 6 sites choisis au départ, mais on aurait pu faire une enquête auprès des 8000 établissements de départ. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à ceux qui avaient déjà fait un premier pas, en disant que ça les intéressait, d'essayer de relayer. On leur a donné du matériel pour qu'ils le fassent et qu'ils fassent cette communication. Et on a obtenu un échantillon de 605 répondants, ce qui n'est pas si mal, ce qui nous permet de qualifier aussi des situations différentes. Alors, là, on n'a pas de population d'usagers des bibliothèques au niveau de la France. Qu'est-ce que ça veut dire être usager des bibliothèques entre ceux qui sont inscrits, non inscrits, ceux qui fréquentent plus ou moins ? C'est compliqué. On n'a pas connaissance de ça. Donc, on n'a pas de population de référence stricte. Si ce n'est qu'il y avait déjà une enquête sur les publics et usages des bibliothèques municipales en 2016. On a repris les mêmes données et on a corrigé les biais par âge et par genre. Alors, sans surprise, quand on fait une enquête, on a trop de femmes et on n'a pas assez de jeunes. Dans notre enquête, on avait trop de femmes et pas assez de jeunes. Donc on a corrigé, on a pondéré, en voyant, vous voyez notre échantillon, la colonne échantillon, on avait 3,5% de 15-25 ans. Il en fallait théoriquement 16,5, on a réussi à approcher les 10%. Donc on n'a pas tout à fait pu pondérer suffisamment. Pondérer, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand quelqu'un répond, au lieu que sa réponse vaille statistiquement pour 1, on va lui mettre un poids un peu supérieur, 1,2, 1,3, 1,4 ou 0,6 s'il est sur ou sous-représenté. Donc si vous êtes une femme issue de milieu supérieur âgée, votre poids va tomber. Voilà. Et si vous êtes un homme jeune de 15-25 ans, demi-ouvrier, là, voilà, vous allez avoir un poids qui augmente. Mais pour le faire de manière statistique à peu près rigoureusement, on ne peut pas mettre un poids à 10 non plus. Ça ne voudrait rien dire. Donc on se fixe des barèmes. Voilà. Donc on a fait cette opération. Gardez juste en tête qu'on n'a pas tout à fait assez de jeunes. Voilà. Alors, un contexte de crise et de tension. On a essayé de qualifier les problèmes qui se posaient aux bibliothèques dans le cadre de du déploiement de leurs activités musicales. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes, dont on va parler, la crise du disque. Est-ce qu'il est revenu systématiquement ? On prêtait beaucoup de CD, et ben, on prête moins de CD, parce que les gens n'ont plus de lecteurs de CD. Et coup de grâce, il n'y a plus de lecteurs de CD dans les voitures neuves qu'on achète maintenant. Donc, problème. Mais il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent, en fait, qui vont expliquer des réponses. des éléments de réponse et puis des variations dans les façons qu'ont les établissements de répondre. Alors, les éléments de la crise, bon, deux problèmes pour faire simple. Il n'y a plus de CD et les Français écoutent de plus en plus de musique. Alors, on se dit, bah, les Français écoutent de plus en plus de musique, c'est super. Sauf que le sentiment qui est celui des professionnels, c'est que les sentiments, c'est le sentiment que les Français n'ont plus besoin des bibliothèques pour écouter de la musique. On n'est plus dans les années 50, 60, dans lequel on avait le sentiment qu'il fallait vraiment prêter du disque, sinon les Français allaient rester à écouter pas beaucoup de musique. Voilà. Parce qu'il fallait sortir pour écouter de la musique, il y avait très peu de support, il fallait les faire connaître et tout ça. Là, dans les années 70, 9% des Français écoutaient de la musique chaque jour. Aujourd'hui, c'est plus de 60% dans les pratiques culturelles des Français de 2018, en sachant que ça a dû augmenter un peu. Premier élément. Et puis, la numérisation des pratiques. Là aussi, le sentiment, c'est pas le cas de la musique n'est pas spécifique là-dessus. Hein. C'est vrai aussi pour Internet ou la lecture en général. Les Français écoutant plus de musique en ligne, sur des sites de streaming, la question de la médiation et des façons qu'ont les bibliothécaires pour leur faire écouter de la musique autrement que sur les streamings change. Alors nous, on observe ça très clairement. 72% de notre échantillon de bibliothèques déclare écouter de la musique au format électronique. Donc cette numérisation des pratiques, elle est très... elle est là assez large. Alors, ça remet en cause la domination des écoutes qui ont été structurées par le disque. Antoine Aignon, un sociologue, appelle la discomorphose, c'est-à-dire la transformation de l'expérience d'écoute musicale sous format de disque. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais on n'a pas toujours écouté de la musique avec une durée d'écoute, une structuration en piste qui soit celle du disque. Il y a eu un moment où on écoutait de la musique en concert live et ce n'était pas le même format. Ce n'était pas stabilisé d'ailleurs. La discomorphose, il a fallu un peu de temps pour que les Français écoutent ça d'une certaine façon. Et ce qu'on appelle la numérimorphose, donc des écoutes musique sur des supports diversifiés, ça change potentiellement la façon, ça change formellement la façon dont les Français écoutent de la musique. Donc là, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une variabilité des supports. On n'écoute pas que sur streaming, que sur Spotify ou autre, on écoute sur YouTube, on écoute aussi sur du disque, on écoute aussi à la radio, et donc il y a une multiplication des supports, et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous ai mis à chaque fois des statistiques, je ne vais pas vous les commenter dans le détail, mais voilà, 34% de l'échantillon écoute de la musique en streaming, c'est ce qui a impacté les usagers des bibliothèques, c'est quand on leur demande qu'est-ce qui a changé dans votre manière d'écouter de la musique depuis les 5 dernières années, ce qui sort en premier, c'est écoute en streaming. Ce qui revient au même, c'est la diminution ou l'arrêt d'achat de CD, le fait d'avoir acheté une enceinte numérique, bon, en gros, tout ce qui a trait à la numérisation des pratiques. Et puis des choses intéressantes qui sont liées à la sociabilité aussi. Le dernier, l'arrivée d'un enfant, c'est un drame pour l'écoute de musique. Vous connaissez peut-être ça, voilà, on écoute plus qu'on veut quand on a un enfant, on écoute des contes pour enfants, de la musique pour enfants, des podcasts maintenant, et on est plus libre d'écouter ce qu'on veut, c'est dramatique. Ça, c'est un effet net sur la transformation des goûts musicaux. Ce qui se maintient dans ce contexte, c'est l'éclectisme culturel. Alors, rapidement, être cultivé aujourd'hui, c'est écouter beaucoup de musiques différentes, lire beaucoup de choses différentes, regarder beaucoup de films différents, c'est plus s'intéresser qu'à des formes dites légitimes culturelles. Dans les années 70, on aurait fait une enquête, il y a des enquêtes qui ont été faites, il y avait des Français qui n'écoutaient que de la grande musique. D'ailleurs, les pratiques culturelles des Français de l'époque parlaient de grande musique. Est-ce que vous écoutez de la grande musique ? Voilà. Il y avait un biais, hein, parce qu'il y a la grande musique puis l'autre. Aujourd'hui, c'est être capable d'écouter des genres différents. Alors, cet éclectisme culturel-là, il se maintient. Cette dynamique-là qui consiste à écouter des choses très différentes, ça se maintient. On l'observe dans notre échantillon. Et classiquement, ceux qui sont les moins éclectiques sont les plus jeunes. Ils écoutent peut-être beaucoup de musique, mais ils écoutent moins de genres différents. Ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt à faire de la médiation musicale pour ouvrir le champ des écoutes et favoriser la diversité des écoutes, en sachant que cet éclectisme culturel, et là l'éclectisme musical, il est aussi inégal socialement. Plus on est issu de milieu supérieur, plus on va avoir des goûts variés. Ça va ? Donc si vous êtes jeune de classe populaire, vous écoutez moins de musique que si vous êtes âgé de milieu supérieur. Alors, le caractère numérique des écoutes, contrairement à ce que craignent les bibliothécaires, ça ne va pas de pair avec une uniformisation culturelle. Il y a toujours de l'éclectisme culturel. Donc, les algorithmes qui nous proposent de la musique ont fait finalement peu d'effets. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, y compris chez les jeunes, qui montrent qu'il y a un maintien des écoutes différentes. Et ce qui joue énormément, c'est les sociabilités. Les sociabilités, donc le fait d'avoir des amitiés, une bande de potes, on va dire ça comme ça, ça structure fortement nos écoutes. Et les travaux de Dominique Pasquier montrent que pour certains enfants, certains adolescents, ça uniformise les écoutes. Ce qui uniformise, c'est le fait de se prêter, de se conformer à ce qu'écoute son groupe social d'appartenance. Voilà. Sa meilleure amie quand on est une fille, sa bande de potes plutôt quand on est un garçon, ça va. S'il y a conformisme, c'est là que ça se joue. Donc c'est les sociabilités qui interviennent beaucoup, plus que les plateformes. Et ces sociabilités, là aussi, elles sont productrices d'inégalités sociales. Quand vous traversez des univers sociaux différents, quand vous avez des parents qui sont de milieu supérieur et que vous évoluez dans des milieux sociaux contrastés, vous êtes moins soumis à ce conformisme que si vous êtes, encore une fois, un jeune homme d'un milieu populaire, où ça va être du rap, par exemple. Donc ça ne veut pas dire, les plateformes, qu'elles uniformisent, mais comme il y a toujours des inégalités sociales, il y a toujours l'intérêt de défendre la formation des goûts, la diversité culturelle, etc. Alors, ces sociabilités musicales, l'importance des sociabilités, elles sont importantes selon l'âge, je vous l'ai dit. Donc ce qu'on retrouve, c'est voilà, 70%, 72% des moins de 25 ans déclarent écouter de la musique sur les conseils d'un proche, alors que quand on est plus âgé, 65 ans et plus, c'est 30%. Donc les effets de sociabilité sont très grands. Les réseaux sociaux, on va les retrouver, mais les réseaux sociaux, c'est aussi les conseils des proches. Les enquêtes qui sont faites sur les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux, c'est les proches. Les amis, les copains du lycée, c'est pas, je sais pas, Kevin des États-Unis, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc on retrouve les plateformes, elles interviennent évidemment, mais elles interviennent dans un contexte de sociabilité et de façon d'activer la musique qui est socialement structurée et pas en termes technologiques. On le retrouve donc dans notre enquête. Alors ces changements, ils sont perçus par la profession. Évidemment, les bibliothécaires s'inquiètent beaucoup de l'apparition des plateformes parce que ça a un effet clair sur la façon dont les CD sont empruntés, avec un effondrement, une érosion au début, puis à partir des années 2015, parfois un effondrement de ces prêts de CD. Et puis, voilà, les changements technologiques, c'est ça qui est plutôt... convoqué, c'est de ça dont on nous parle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en parler après si vous voulez, mais globalement, il y a des changements qui sont perçus à l'échelle globale. Et c'est ces changements à l'échelle globale, ce qui se passe aux États-Unis, ce que fait Deezer en Europe du Nord ou autre, c'est ça qui va déterminer la façon dont on va travailler, pouvoir travailler, ou la façon dont la musique va venir aux Français. Donc des choses sur lesquelles on n'a pas prise, parce que c'est du changement global, technologique et de marché industriel à l'échelle locale. Il y a aussi des changements qui dépassent largement la question numérique et qui sont associés au territoire. Et là, c'est le deuxième axe sur lequel il faudra retenir des choses sur cette intervention, c'est que la capacité qu'ont les bibliothécaires à percevoir les changements et à réagir en fonction de ces changements, c'est éminemment dépendant de leur rapport au territoire. Est-ce qu'ils ont perçu des choses, des transformations, avant même la question du numérique dans leur territoire ? Des changements démographiques, des changements économiques, des changements liés à la métropolisation. Est-ce que nos publics ont changé ? On a parlé du déménagement de la BPI tout à l'heure, des transformations. Est-ce qu'on perçoit ça ? Et si on perçoit des changements, alors on va mettre en place des actions pour répondre à ce changement. Est-ce qu'on a plus de pauvreté ? Dans notre territoire ? Est-ce qu'on a un mouvement de désindustrialisation qui rend plus important la question de la musique comme lien social ? Donc on va agir en fonction de ça, avant même de se poser la question de savoir si c'est Deezer ou Spotify ou autre. C'est des actions qui vont déterminer beaucoup ça. Ce changement global local, il est déterminant pour comprendre la façon dont on pose le problème. Alors, du coup, les éléments de cette stratégie 360 degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on réagit au niveau français sur les bibliothèques et quelles sont les actions qui ont été développées? Alors d'abord, la capacité à proposer des solutions dépend beaucoup du fait de savoir si on a connu un changement institutionnel, la métropolisation, est-ce qu'on a intégré un ensemble qui dépasse la ville et avec qui il a fallu réagir. Est-ce qu'on a rédigé un nouveau projet de service ou est-ce qu'on a effectué des travaux? Donc on a 44% des bibliothèques qui ont effectué des travaux, qui ont eu un changement institutionnel, 39% qui ont réorganisé leurs services, etc. Et on verra que ça, c'est important pour comprendre la façon dont, du coup, on s'est réorganisé pour proposer d'autres formes d'écoute ou d'autres services musicaux. C'est un peu contre-intuitif, parce que là, vous allez l'air d'accord, ça paraît normal, mais finalement, on pourrait se dire, on a des problèmes institutionnels, on a des changements, on va maintenir ce qu'on sait faire, et on ne va pas se poser de questions, parce que l'essentiel, c'est de maintenir nos activités. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On dit à une bibliothèque, il faut que tu travailles en réseau avec d'autres bibliothèques, et c'est l'occasion de redéfinir le sens des actions qu'on est en train de conduire. Ça va ? Alors, la réaction, la façon dont les choses se sont passées, c'est d'abord pour rendre plus accessibles les collections. 71% des bibliothécaires interrogés ont cherché à rendre plus accessibles leurs collections. Alors, d'abord parce qu'il y a un côté que vous avez sans doute connu qui est réglementaire. Il a fallu faire en sorte que, formellement, les personnes à mobilité réduite puissent accéder. Mais ça a été aussi, globalement, le fait de chercher à accueillir un public plus large au cours d'événements. On a fait des travaux, on a construit des nouveaux équipements pour faire venir plus de monde dans la bibliothèque sur des événements. Pas au quotidien, mais sur l'organisation d'événements. Et puis, pour favoriser les pratiques numériques, améliorer la qualité des événements, ça revient sur la question des événements, on verra que la place des événements dans les bibliothèques est devenue plus importante. L'idée, des premiers éléments de réponse, c'est de faire participer davantage les publics. L'idée, c'est de se dire, les publics sont occupés en termes numériques, comment on fait pour les faire venir et faire en sorte qu'ils participent? Alors, dans la manière de répondre, on a fait 4 profils types de bibliothèques. Les 17% de nos bibliothèques développent ce qu'on appelle un service commun, c'est-à-dire du prêt. Du prêt de CD, prêt de livres audio, prêt de livres sur la musique, ça c'est le service de base. Après, on a 14% qui proposent une écoute partagée, c'est-à-dire qu'ils associent ces services-là à autre chose qui consiste à organiser des concerts, organiser des moments d'écoute. Des moments d'écoute, ça peut être une sieste musicale, ça peut être ce que vous voulez. D'autres qui vont encore plus loin, 36%, donc là, maintenant, on est un tiers à chaque fois. Donc on a un tiers des bibliothèques qui font tout ça, plus le fait de mettre à disposition des dispositifs pour écouter sur place ou chez soi, ou qui donnent accès à de la musique numérique. Donc là, on est déjà à 2/3 de l'échantillon. Le dernier tiers, c'est l'initiation à la pratique. Donc là, c'est ceux qui font le plus, qui ajoutent tous ces services et qui vont faire en sorte de favoriser la pratique musicale, par le prêt d'instruments, le prêt de partitions, en organisant des sessions d'initiation. Donc là, c'est ceux qui ont une définition qui est la plus poussée. Alors, 33%, un tiers. Maintenant, on verra après qui sont ce tiers-là. Mais je vais faire une petite parenthèse encore pour vous dire que cette question-là, l'initiation à la pratique, elle était dès l'origine présente dans les débats des bibliothécaires musicaux. Des discothécaires. Dès la création des discothèques de Paris, la question c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prête des supports? Et les Français n'ont pas les moyens d'écouter des choses, donc peut-être qu'il faut leur prêter des supports. Ou est-ce qu'on les initie à la musique? Et les débats, c'était pas les jeunes à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, donc on ne s'inquiétait pas des jeunes, la France était jeune. Donc on se disait bien, il y aura des jeunes. C'était les ouvriers. Comment faire pour qu'un ouvrier pratique un instrument de musique? Ça, c'était au début, c'était très très fort, ces débats-là. Et puis après, comme les supports ont très très bien marché, et que les disques ont très très bien marché, puis le CD a très très bien marché, ça a focalisé l'activité, et même matériellement, ça a pris du temps. Ça prenait du temps aux bibliothécaires musicaux qui devaient gérer ce succès des supports. Et donc, les gérer, les faire rentrer, les trier, les désherber, les prêter, par pile, à un moment. Et plus ça marchait, plus ça prenait du temps. Et moins on a eu du temps pour développer cette initiation à la pratique. C'est devenu secondaire. Là, ça revient, puisque l'effondrement du CD, ça libère à nouveau du temps. Bon, on a un petit tableau qui présente la synthèse de tout ce qui est fait justement sur ces différents régimes d'écoute. Voilà. Donc là, la stratégie 360 degrés, elle est là, c'est-à-dire quand même 2/3 des établissements minimum qui ont vraiment une stratégie de diversification de leurs activités. Alors, ceux qui diversifient le plus leur répertoire ont également tendance à intensifier. On diversifie et on le fait plus souvent. Donc on organise plus de choses différentes, mais quand on organise des concerts, on va en faire de plus en plus. C'est ça aussi qu'on observe, d'accord ? Avec, on verra, des façons différentes de le faire et des moyens qui sont un peu différents. Donc, bon, pour nos derniers tiers de bons élèves, on va dire ça comme ça, si on veut caricaturer, non seulement ils font beaucoup, mais ils font souvent. Alors, la surprise, c'est que 58% des bibliothèques qui sont dans cette pratique d'initiation à la pratique, là, sont des petits établissements de moins de 5000 habitants. Donc là, la représentation qu'on pouvait en avoir, de se dire bah, « c'est super, c'est la BPI qui fait tout ça, mais ils ont les moyens de le faire, ou c'est Lyon, ou c'est la grosse métropole », eh ben non. Il y a 58%, alors c'est moins que l'ensemble, c'est vrai, mais il y a quand même 58%, 60% presque des bibliothèques qui sont dans un tout petit territoire et qui font tout ça. Alors, pour être tout à fait honnête, elles font des choses très différentes, elles ne le font pas toujours avec intensité, parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens de le faire souvent. Mais en tout cas, elles tiennent absolument, pour certaines d'entre elles, à prêter des instruments de musique alors qu'on est sur un tout petit territoire. Alors, ça arrive souvent parce que la médiathèque, elle évolue comme étant un espace culturel pluridisciplinaire. Donc vraiment, le projet de la médiathèque, on le retrouve, et on le retrouve souvent, d'autant plus qu'on est dans un territoire dans lequel il n'y a rien. Quand il n'y a personne, on se sent obligé de faire. C'est ça que ça veut dire, de façon un peu différente. Alors, les grands établissements le font déjà, et le font avec des logiques de partenariat, mais là, c'est plus facile quand vous n'avez rien à négocier aussi, quand vous êtes tout petit, vous vous sentez libre de le faire, parce qu'il n'y a pas de partenariat à développer ou autre. Et puis, il y a une responsabilité qui est très grande. Alors, je reviens vite fait sur... ce que montre ce graphique, c'est que ceux qui sont dans l'initiation à la pratique sont plus nombreux à avoir perçu un changement dans leur environnement institutionnel et à avoir rédigé un nouveau projet d'établissement. Donc, le fait de redéfinir la situation comme étant problématique ou source d'opportunité, c'est ce qui conduit à l'action. Encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre profession. Vous n'avez pas été paralysé par les enjeux. Le fait de reposer ces enjeux, de les identifier, ça a poussé à avoir des réponses. En innovation aussi, ce qu'on dit souvent, c'est que l'innovation, c'est Michel Calon, qui est un sociologue de l'innovation, qui dit ça, c'est le fait de problématiser. Poser le problème différemment, c'est le début de l'innovation. Et donc là, ce qui s'est à nouveau imposé, c'est pas de faire écouter les Français, c'est de les faire pratiquer de manière active la musique. Et c'est donc une nouvelle définition du problème. Alors, nouvelle, je vous l'ai dit, elle était ancienne, mais on l'avait un peu oubliée. On repose cette question-là autrement, et ça suppose de nouvelles actions pour le faire. Alors, c'est plus facile quand on a un projet de service et qu'on se dit, bah, à quoi on sert ? Comment on va justifier ce à quoi on sert ? Et j'avais jusqu'à présent un magnifique espace musique, j'avais des CD, ça marchait tout seul. Maintenant, mon espace musique, il est vide. Il n'y a plus personne qui vient, ça commence à se voir. Comment je vais faire ? Ok, on réfléchit, et on verra qu'on réfléchit avec les partenaires et on trouve des solutions, en tout cas qu'on va expérimenter. Alors, ça prend du temps, évidemment, et donc, sans surprise, 31% des établissements qui vont jusqu'à l'initiation à la pratique disposent d'un temps plein consacré à la musique. On peut le lire aussi différemment, c'est quand même qu'il y en a 24% qui y consacrent moins de 10%. Là, c'est nos petits établissements qui consacrent que 10% du temps, mais qui vont le faire tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas d'excuse, on va dire, si on veut le dire comme ça. S'il y a bien un investissement qui suppose quand même qu'on ait envie de le faire, qu'on perçoive ce besoin et cette nécessité de le faire. Donc, ce temps-là, il est lié aussi à nos petites bibliothèques investies dans le territoire. C'est celle-là qu'on qualifie. Je dis un peu la même chose, mais différemment. Alors, dans le même temps, les usages des publics en bibliothèque se diversifient. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourrait se dire, ben, en fait, les les bibliothèques mettront en place des dispositifs différents, et puis c'est la même chose qui se passe, et les usagers continuent à faire la même chose. Donc, comme l'offre change, les usagers voient leur pratique changer aussi. Alors, on verra que, par exemple, on a 21% des usagers qui écoutent de la musique en salle, 22% qui participent aux concerts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, quand on considère que c'est ça qui va être mis en œuvre, de plus en plus, en tout cas, l'écoute de concerts, etc. Et évidemment, l'empreinte CD, bah, ça diminue. Ça diminue d'autant plus qu'on prête moins de CD parce qu'on a moins de collections de CD et qu'on commence à s'en débarrasser, etc. Alors, vous avez peut-être connu le moment où vous êtes débarrassé vos établissements des vinyles. Et on a fait des entretiens où c'était vraiment un crève-cœur. Et de voir qu'il y avait des usagers fidèles comme des rapaces qui sont venus acheter à vil prix tous vos beaux vinyles. Et c'est un peu la même chose qui s'est passée pour certains dans les collections, mais pas toutes. Parce que notamment les grands établissements comme Lyon, par exemple, ont des pépites, vraiment des beaux vinyles et des beaux CD dont ils vont jamais se séparer et qui vont garder précieusement. Hein. Donc il y a des trésors qui permettent de refaire une médiation un peu différente. Quand on a un petit établissement et qu'on a besoin de place, là, les choses se posent pas de la même façon, évidemment. Donc on continuera à avoir encore de l'empreinte CD et de vinyle dans certains établissements et pas dans d'autres parce qu'ils vont proposer des manières de les prêter qui seront attractifs. Hop, je regarde un peu l'heure, voilà. Alors, donc je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait corrélé à la taille, et même on voit plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que ceux qui consultent, assistent à des concerts et écoutent sur place sont souvent un peu plus que la normale dans des établissements petits. Là, tous ceux que vous voyez en haut, normalement, on a 12% d'usagers qui sont dans des petits établissements, dans notre échantillon, là. Et parmi ces publics-là, on a 17% de ceux qui sont dans des petits établissements qui font le plus de pratiques. Parce que, quand vous êtes dans un petit établissement, c'est plus facile d'aller motiver, paradoxalement, votre public avec des actions, encore une fois, souvent quand vous êtes dans un territoire dans lequel il n'y a pas grand-chose. Et c'est plus compliqué, paradoxalement, pour Lyon, qui va mettre beaucoup de moyens, mais qui sera dans un territoire avec beaucoup d'offres, et ça sera plus compliqué de faire venir des publics en identifiant clairement son offre. Ce que les professionnels ont bien identifié, donc ils cherchent à avoir des stratégies partenariales pour faire venir leur public. Alors, comment est-ce qu'on habite cette façon de faire vivre la musique en bibliothèque, ce qu'on a appelé le musiquer ? Alors, musiquer, c'est pas très beau comme terme, mais c'est une vieille expression qui vient de la notion d'expérience du US. Qu'il faut garder en tête, c'est que la musique, c'est pas tout à fait la même chose que la lecture ou d'autres. C'est vraiment une forme d'expérience qui repose sur quelque chose qui est sensible et qui est partagé. Une écoute sensible et partagée. La musique, en tout cas dans les formes moderne, c'est quelque chose qui est plus individuel et qui est moins partagé. Proposer une expérience musicale, c'est proposer une expérience sociale d'un caractère un peu particulier. Alors, la façon de faire vivre ça, ça va varier selon la volonté des équipes, ce qu'elles cherchent à faire. Alors, est-ce qu'elles cherchent juste à transmettre une information ? Donc, ça peut commencer par dire, il y a des super concerts sur notre territoire ou il y a tel disque qui vient de sortir, écoutez-le. Donc, c'est investi comme ça en premier. Est-ce qu'on cherche à créer une ambiance ou un paysage sonore dans la bibliothèque ? Par exemple, on va faire des balades sonores, des balades sensibles, etc. Ou est-ce qu'on va créer des modalités, on va jouer sur ces formes d'écoute individuelle, d'écoute collective, voire sur des concerts ? Qu'est-ce qu'on va travailler, en fait ? Et donc, il y a plein de façons différentes d'habiter cette expérience musicale et des expérimentations très diverses. Donc, vous avez des bibliothèques qui travaillent sur l'écoute mobile. Donc, on va, oui, effectivement, faire une balade urbaine. On va se déplacer, écouter en se déplaçant. Ce n'est pas la même chose que de rester statique sur une chaise et écouter un concert. Et donc, on va travailler sur toutes ces formes-là différentes. Alors, vous trouvez ça dans les propositions qui sont faites par les professionnels. 37% proposent des sessions d'écoute et des expériences sonores, des dispositifs d'écoute, des fonds. On verra que ça pose des questions à chaque fois. Mais il y a beaucoup d'expérimentations diverses sur la façon de rendre l'expérience musicale présente en bibliothèque. Hop, hop, hop. Alors, ces répertoires-là, ils sont affectés à des projets différents. Alors, j'ai vraiment chargé la slide, mais je pense que je vous les laisserai pour que vous ayez le temps de la lire. Bon, l'idée, c'est que quand on cherche à initier la pratique, en fait, on va aller proposer un prêt d'instruments, mais on va aussi développer des sessions d'écoute musicale ou des sessions de formation qui sont vraiment partagées. Et donc, à chaque fois, ce sens de qu'est-ce qu'on cherche à faire, il est habité de façon différente selon le type d'investissement qu'ont les professionnels dans les formes d'écoute qu'ils proposent. Je vais peut-être le dire un peu plus clairement là. Sans surprise aussi, c'est lié beaucoup à la formation des bibliothécaires. Alors, bon, est-ce que vous êtes musicien ou pas ? Et la forme la plus aboutie d'initiation à la pratique, c'est que, avant d'être bibliothécaire, on est d'abord musicien. Bon, donc, sans surprise, ceux qui s'occupent beaucoup de la section musique sont musiciens, ou à minima, ils ont été formés à la musique pendant leur prise de poste, ou plutôt avant. On a aussi pas mal de professionnels qui sont très investis, qui ont travaillé avant d'être bibliothécaire, dans la médiation musicale, dans des salles de concert, dans des festivals, etc. Donc, qui ont une connaissance de la musique et de son écosystème avant même de prendre leur poste. Ça peut avoir des conséquences en termes de recrutement, par exemple, et pas que de formation. C'est-à-dire, si on veut que ça marche et que quelqu'un organise des concerts, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'il ait déjà fait avant dans une carrière professionnelle précédente. En tout cas, ça marche et c'est bien ce qu'on observe là. Alors, c'est beaucoup lié au partenariat. 43% des établissements là, qui initiaient la pratique ont participé durant les 12 derniers mois à des réunions de travail avec leurs partenaires. Donc, ce que ça veut dire en creux aussi, c'est que pour faire vivre la musique de plein de formes différentes, ce n'est pas quelque chose qui se décide uniquement à l'échelle de l'établissement, c'est quelque chose qui se définit à l'échelle du territoire en relation avec ses partenaires. Donc, on n'a pas une définition de la musique comme étant un élément lecture publique, et clairement, le prêt de CD, c'est de se dire, bah, voilà, on gère nos collections comme on le fait en tant que bibliothécaire, et puis après, on les prête. Aller vers l'organisation de concerts, ça suppose d'aller chercher des compétences ou des connexions avec d'autres partenaires. Un conservatoire, par exemple, une école de musique, un autre festival. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche, pour 57% des bibliothécaires, à attirer de nouveaux publics. Et on se dit, la musique, ça reste un moyen d'attirer de nouveaux publics, des jeunes, souvent, ou des publics qui ne viendraient pas si on ne faisait pas ça. Donc ça, c'est classique pour la musique, et c'est ce qui a favorisé le développement de la musique en bibliothèque, vous le savez sans doute mieux que moi. À un moment, ce qu'on attendait de la musique, c'est que ça fasse venir du monde. Et que ça fasse venir plutôt du jeune, et si ça pouvait faire venir plutôt des ouvriers ou du pauvre, ça serait bien. Donc ça reste présent, ça, mais un peu moins que ce qu'on pouvait attendre. Et ce qui est plutôt investi, c'est une vocation culturelle, élargir les goûts musicaux des publics. C'est d'autant plus vrai que même si c'est pas vrai, les bibliothécaires ont le sentiment que les plateformes uniformisent les écoutes. Donc si on se dit on a uniformisation des goûts, il faut qu'on mette le paquet sur le fait de diversifier. Alors, les plateformes ne sont pas tout à fait, je vous l'ai dit, n'uniformisent pas les goûts, mais par contre, les sociabilités, oui. Et donc, les sociabilités, les inégalités des milieux sociaux qui sont présents et qu'on a bien identifiés, ça suppose, encore une fois, qu'on élargisse les goûts musicaux. Faire se rencontrer des publics différents, c'est la même chose, travailler la mixité sociale sur le territoire, faire découvrir les collections musicales, donc trouver les moyens de présenter les pépites qu'on a dans ces collections, des formes d'écoute différentes, des variations sur des morceaux, etc. Bon. Et puis finalement, travailler toute une dimension qui est vraiment culturelle. Donc, faire vivre la musique, c'est plus faire venir uniquement des publics et balancer du CD pour que les gens repartent chez eux. Ça prend une formation, une vocation culturelle qu'on va retrouver évidemment sur d'autres formes que la musique. Alors, ça prend des formes en salle avec des expérimentations qui patinent sur les bandes d'écoute, notamment, c'est ça qui est intéressant. La musique en salle, elle est peu habité en ce moment, donc il y a moins de gens qui viennent écouter de la musique. Il y a eu un moment, il y avait vraiment des publics fidèles qui venaient écouter de la musique. Maintenant, ça devient vraiment des experts, quoi. Ceux qui continuent à écouter de la musique, c'est des hommes de 40, 50 ans, en gros, à mon âge, plutôt déjà musiciens. Ils viennent squatter les bandes d'écoute musicale, mais ils écoutent un peu. Et puis après, ils choisissent, ils discutent avec le bibliothécaire. C'est pas un moment d'écoute vraiment long. Même si on a des dispositifs comme des bornes, on a plein de dispositifs, des chaises, enfin des petites cabines d'écoute, là, c'est pas spécifique aux bibliothèques. Et donc là, les bibliothèques n'ont pas encore trouvé leur identité sur qu'est-ce que c'est qu'écouter de la musique en salle. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas très investi au sens professionnel du terme, pas stabilisé. Alors, je vous l'ai dit, c'est la place de la musique en bibliothèque, elle est inséparable de la place de la médiathèque dans son territoire. Ça dépend beaucoup des relations qu'entretient la bibliothèque par ailleurs avec d'autres partenaires. Donc la façon de faire vivre la musique en bibliothèque, ça dépend beaucoup de la façon qu'on a de faire vivre sur le territoire. Est-ce qu'on a plutôt des rapports avec le conservatoire ? Alors on va faire des activités d'initiation musicale ou de découverte de plutôt de forme classique. Est-ce qu'on est plutôt branché avec des associations, d'un festival pop, rock, électro, etc. On ne va pas faire les mêmes animations en bibliothèque. Donc l'expérience qui va être travaillée, en tout cas, c'est toujours le fait de se dire on va faire vivre un moment un peu suspendu, un événement au sens propre, qui rompe avec le flux d'une écoute qui va être ordinaire. C'est ça qu'on cherche à faire et ça va être habité de façon différente. Et c'est paradoxal parce que les bibliothèques, elles sont par ailleurs aussi identifiées comme étant des lieux de calme. Donc, à un moment, on parlait des étudiants qui viennent travailler à la BPI, ils viennent travailler parce qu'il ne se passe rien et qu'ils sont tranquilles, en fait. Ils peuvent se concentrer. Et là, on propose autre chose qui est vraiment de faire vivre quelque chose d'intense, de partagé, dont on va se souvenir, qui soit un peu mémorable. Alors la question, je pense qu'on arrive sur la fin, c'est est-ce que les bibliothécaires ont les moyens de le faire ? Est-ce qu'ils sont légitimes pour le faire ? Est-ce qu'ils ont les outils pour faire ça ? C'est pas évident. Alors, d'abord parce que, comme il y a plus de support, il ne s'agit plus de gérer des collections. Et ça, c'est problématique. On ne gère plus des fonds, on ne documente plus, on fait des événements. Et ça, ce n'est pas tout à fait dans la culture de métier non plus. Mais en tout cas, dans votre métier, il y a quand même une partie très légitime qui est celle du document. Et puis, il y a une partie qui est liée à la médiation, qui est parfois un peu moins légitime, et sur lesquelles, en tout cas, la médiation musicale, elle est moins évidente. Et parfois, on est moins formé. Sauf si, comme je vous l'ai dit, on l'a appris dans d'autres univers professionnels. En tout cas, faire venir des publics, renouveler les publics, quelle légitimité professionnelle on tire de ça par rapport à des formes qui vont être plus légitimes autour de la collection du document. Ça travaille aussi la question de la place du bibliothécaire en tant que prescripteur. Est-ce qu'on écoute toujours les conseils d'un bibliothécaire aujourd'hui ? Est-ce qu'on se sent légitime, et c'est revenu souvent, à proposer des choses à d'autres ? Donc là, c'est aussi la légitimité, mais qui n'est pas que professionnelle, hein, qui est aussi sociale. Quel est le statut du bibliothécaire aujourd'hui et quelle est sa place dans le fait de faire écouter de la musique ? Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qu'on appelle de la désinstitutionnalisation. C'est que finalement, le premier signe du fait qu'il y a crise, c'est qu'on n'en est plus tout à fait sûr d'avoir la légitimité ou la capacité à faire. Et dans beaucoup d'entretiens qu'on a eus, les bibliothécaires avaient le sentiment que ça se passait ailleurs. Les plateformes, les amis, les médias autres, les réseaux sociaux qui déterminent ce que vont écouter les Français. Et là, les bibliothécaires n'ont plus le sentiment qu'ils ont une place de premier choix à faire, un peu comme dans les années 40 ou 50, plutôt 50 dans le lancement de la discothèque de Paris, où c'était évident, la place du bibliothécaire, c'est de faire en sorte que l'ouvrier écoute de la bonne musique. C'était évident qu'on était légitime à le faire, il n'y avait pas le moindre doute. Là, ça paraît plus fragile. La question aussi, c'est de si on va vers des formes plus expérientielles, donc le fait de travailler quelque chose qui soit sensible, est-ce que les dispositifs dont vous disposez en bibliothèque sont adaptés à ça ? Encore une fois, je vous ai dit l'écoute en salle, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment adaptées à ça ? Quelle est votre place par rapport à la FNAC, par exemple ? Ça, c'est pas encore beaucoup travaillé. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, hein. Mais pour l'instant, la question de la place sensible de la musique en bibliothèque, elle est pas encore stabilisée. Elle n'est pas institutionnalisée au sens où c'est facile. Quand on est un public, on sait ce qu'on va trouver quand on va aller écouter de la musique en bibliothèque. C'est très variable. D'accord ? Quand vous allez chercher du livre, vous savez ce que vous allez vous trouver en bibliothèque. Il y a des routines, le code D-Way, les BD qui sont à un endroit. Tout ça est stabilisé. En matière d'écoute musicale, ce n'est pas le cas. Alors ça reste peut-être parfois intéressant, mais ce n'est pas stabilisé au sens où les publics le font sans se poser de questions. Et je pense que si on... Alors on ne l'a pas fait parce que voilà, ce n'était pas encore le cadre de cette enquête-là, mais si on demande aux gens... Si demain vous allez écouter de la musique en bibliothèque, qu'est-ce que vous allez écouter? Je pense que les réponses sont très très variables. C'est pas stabilisé comme forme d'expérience. Voilà, c'est déjà pas mal sur une digestion. Il y a des questions.
Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée très inspirante. Je me permets trois questions. La première, c'est est-ce qu'il est possible d'accéder aux données pour pouvoir y revenir ? La deuxième, est-ce qu'une enquête équivalente a été faite sur les livres audio, spécifiquement sur les livres audio ? Et la troisième question, est-ce qu'une enquête équivalente a été faite sur les DVD ?
Alors, c'est facile. Oui, non, non. Alors, oui, parce qu'on verra avec la BPI, mais on travaille dans le cadre des données ouvertes. Donc, oui, on peut tout à fait mettre à disposition les données pour que vous fassiez des tris et que vous amusiez avec. On n'a pas fait une enquête spécifique sur les livres audio, mais on a posé des questions sur les livres audio. Et donc, il doit être possible de faire des traitements spécifiques sur les livres audio, en sachant que c'est un petit échantillon. Donc, des fois, la représentativité n'est pas garantie. Et on n'a pas retravaillé sur les DVD. Mais c'est vrai que les questions se posent de la même façon. La médiation à l'image, la médiation au cinéma, ce n'était pas l'objet de cette enquête-là, mais on voit bien que la question peut se poser de la même façon. Comment je travaille à présenter du film sans être un cinéma, sans être une cinémathèque, quelle est ma légitimité ? Alors, dans les... Je n'ai pas eu le temps d'approfondir là-dessus, mais vous verrez, c'est présent dans le livre. La réponse de vos collègues, c'est de dire nous, on documente. Ce qu'on fait, quand même, c'est qu'on documente l'activité du territoire, par exemple. On ne fait pas juste de l'information. Ça, une scène de musique actuelle va le faire. Nous, si on fait quelque chose, c'est pour le faire proprement, bien documenté, et de faire en sorte que cette information-là, dans 10 ans, 15 ans, on puisse continuer à la retrouver. Donc c'est un peu cette différence-là aussi. Hein, je ne sais pas si ça répond à votre question sur est-ce que c'était fait sur le livre audio, tout ça, mais c'est logique, on va les retrouver un peu sur tous les supports. Et puis, je fais une petite parenthèse quand je vous dis, quand on documente, c'est aussi redire quelque chose qui est de l'ordre de la légitimité professionnelle, parce que du coup, on revient sur du document, de l'archive, du patrimoine, et des choses qui sont peut-être pas que de l'éphémère et de l'événementiel, quelque chose qui nous amène un peu loin du métier, mais quelque chose sur lequel on peut faire valoir vraiment ses capacités professionnelles.
Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, c'était peut-être plus une... je ne sais pas comment dire, un retour d'expérience, d'une certaine manière. Je suis arrivé en médiathèque il y a un an et demi. Je sors de l'ENSIB, voilà, tout ça. Je m'attendais à arriver dans une médiathèque où, effectivement, il n'y avait presque plus de CD. Pour moi, c'était un support qui était mort, quoi, on va dire. Quelle ne fut pas ma surprise d'effectivement trouver une médiathèque où il y avait toujours autant de CD et où je me retrouvais avec des gens qui partaient avec 20 CD d'un coup. Et puis qui avaient une liste où ils notaient tous les CD qu'ils avaient écoutés. Et ils arrivaient et ils disaient « Ah, j'en ai encore trouvé un que j'ai pas écouté », et des choses comme ça. Et ou avec une expérience similaire sur les DVD, mais où c'était en plus les familles qui faisaient beaucoup, qui utilisaient encore beaucoup les DVD. Et sur les stations d'écoute, nous, alors est-ce que c'est quelque chose de local, je sais pas, mais c'est pas les personnes expertes, on va dire, qui vont avoir tendance à l'utiliser, c'est les enfants, avec beaucoup de jeunes qui adorent ça, qui adorent pouvoir se poser, prendre un CD un peu au hasard et puis hop, le mettre et pouvoir l'écouter sur place. Ce qui pose certaines fois des problèmes parce qu'on a eu des stations qui du coup sont plus en très bon état, mais voilà. Donc voilà, c'était juste petit retour d'expérience personnelle.
Vous avez raison, la question particulière du support, d'abord, souvent, les publics les plus experts sont abonnés à des plateformes, écoutent du CD, écoutent du vinyle, écoutent sous toutes les formes, en fait. Hein. Ça, c'est assez fréquent. Donc, et c'est le cas dans les grands établissements, souvent, on retrouve toujours ces publics experts qui font de tout et qui mobilisent tout pour écouter. D'autant que, vous verrez un peu dans l'ouvrage, les bibliothèques choisissent souvent de garder les pépites dans les CD. On ne garde pas, évidemment, le truc qu'on peut écouter facilement, mais vraiment une version particulière d'une œuvre qui est intéressante et tout ça, et dont, sur lesquelles on va valoriser. C'est beaucoup plus facile quand on est une grosse médiathèque, quand on est une petite, mais chacun le fait de façon un peu différente. Et puis le fait d'écouter de la musique, c'est aussi avoir une relation avec les bibliothécaires. Donc du coup, on a quand même des bibliothécaires aussi qui vont nous dire, nous les jeunes qui écoutent n'importe quoi, là, on va les faire écouter de la musique avec du CD ou avec du vinyle, parce que là, on est sûr de les attraper. Sinon, si on les laisse faire, ils vont écouter n'importe quoi sur les réseaux. Et tout ça. Donc c'est aussi un support de médiation matérielle. Alors, mais ça reste pas stabilisé. Ça que je veux dire, c'est qu'il y a des façons de le faire vivre en salle, avec des bornes, des dispositifs qui sont jamais tout à fait les mêmes. C'est pas aussi stable que ce qu'on trouve dans d'autres formes. Ça l'a été pendant un temps, parce que ça marchait tout seul, encore une fois, et parce que voilà, les publics absorbaient. Le problème maintenant, peut-être le signal quand même, c'est la disparition du CD dans les voitures, qui signe un peu, vraiment, là, c'est vraiment la fin, parce que les mobilités en voiture, ça prend du temps, on écoutait du CD, on prenait ses piles de CD. Là, du côté de vos collègues, il y a vraiment le signal d'alarme en disant, bah là, c'est fou, c'est fini, quoi. Voilà, on les a perdus. Mais après, peut-être que l'impact environnemental des plateformes fera qu'à un moment ou un autre, on va peut-être revenir à des formes un peu plus sobres et un peu plus matérielles, mais c'est un autre débat.
Oui, merci tout d'abord pour votre intervention. Je voulais juste faire une remarque qui est un écho à vos propos. C'est que sur les projets de construction ou de réhabilitation de bibliothèques, on voit que tant les bibliothécaires que les collectivités, c'est même pas s'interrogent, ne sont qu'un point d'interrogation face à la question de qu'est-ce qu'on fait pour la musique. Donc on lira avec beaucoup d'attention vos travaux pour essayer de pouvoir les accompagner sur cette question-là, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, rien n'est stabilisé. On peut faire des expériences, on peut faire des choses, mais rien n'est stabilisé.
Ouais. Ben, c'est moins facile de défendre un espace musique qui prenne beaucoup de place quand il y a peu de monde qui vient. Alors, mais encore une fois, parce que la musique s'est inscrite sur cette promesse de faire venir du monde. Ce qui n'était pas toujours... Enfin, je veux dire, il y a d'autres services dans lesquels il n'y a pas grand monde qui vient. Hein, et c'est légitime. Enfin, je veux dire, les archives, par exemple. Personne ne se dit, bah voilà, on va les supprimer. Personne ne vient. Il n'y a personne qui vient. Mais on a tous le sentiment qu'il faut que ça soit là. Alors, je ne dis pas qu'en plus, personne ne vient dans la section musique. Mais c'est sûr que c'est plus les flux continuent. Et pour les élus, le fait de se dire, bah voilà, c'est un truc qui fait venir des jeunes. Mais la question, bon, ça renvoie à d'autres questions sur la mesure d'impact, le plaidoyer, dont on reparlera peut-être à l'occasion d'autres travaux. Mais ça suppose aussi la capacité qu'ont les bibliothécaires à faire partager ces enjeux avec des élus autrement. Qui est-ce qu'on veut faire venir ? C'est pas tellement le nombre, c'est qui on va former et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? Voilà. Alors, il y a plein de façons différentes de poser la question. Souvent, on s'inquiète beaucoup des jeunes. On ne devrait pas s'inquiéter tout le temps des jeunes, mais de certains jeunes. Comme on peut s'interroger sur certains vieux qui n'ont plus aucune activité culturelle, je vais redire ce que je dis de temps en temps, mais parfois, dans certains mondes socio-économiques, y compris d'ingénieurs et de cadres en marketing, ça serait pas mal de se poser la question de savoir ce qu'ils écoutent. Quand sont des hommes de mon âge, souvent on écoute à mon âge, on écoute de la musique que parce qu'on a une femme qui est un peu cultivée et qui nous force à faire des choses, hein, sinon on ne fait rien du tout. Et c'est un problème qui n'est pas posé, mais qui est aussi, enfin, dont les impacts sociaux sont très forts. Parce que, je ne vais pas faire de la politique, mais là, en ce moment, on se dit quand même qu'il y a un intérêt à peut-être travailler sur d'autres catégories, pas forcément les jeunes, qui ne sont pas ceux qui sont le plus menacés par l'absence de musique. Pas. Même s'il y a des inégalités encore, je le répète. Ok.
Moi, il y a une chose qui m'a un peu surpris en fait dans les résultats de la recherche, à laquelle je ne m'attendais pas, parce qu'on on pouvait partir avec des idées un peu, avec pas mal d'inquiétudes, hein, voire imaginer une forme de désinvestissement hein, de l'écoute musicale et de la documentation musicale. Et ce qui sort dans l'enquête, alors c'est aussi parce qu'il y a eu un prisme déformant avec un échantillon qualitatif de sites qui étaient particulièrement actifs dans le domaine musical, mais ça sort aussi en partie dans l'enquête quantitative, c'est que la musique, le secteur musical peut être un levier de transformation territoriale pour les bibliothèques. Et alors là, ça, moi, je ne l'avais pas vu arriver, donc c'est peut-être plutôt les BDP, les métropoles, mais même dans les petites bibliothèques, quoi, dans les petites communes. Ça, j'étais très surpris. Assez rassuré aussi.
D'autant que je pense qu'effectivement, pour faire vivre la musique en bibliothèque, ça suppose vraiment d'avoir une logique partenariale. Parce qu'il y a une question de légitimité, et puis il y a aussi le fait de savoir faire ou pas, savoir faire une régie, être capable de faire venir les publics et les professionnels qu'on a interrogés, mais même dans les petits établissements, on a le sentiment qu'il faut quand même se reposer sur les compétences d'autres personnes dans le territoire pour le faire. Et du coup, ça dévertue, c'est qu'effectivement, ça soutient l'activité. À partir du moment où on a fait un partenariat, on ne peut plus l'arrêter aussi facilement. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a une conception plus ouverte, peut-être, de l'activité de la bibliothèque, qui est soutenue par d'autres. Et donc, encore une fois, en matière d'innovation, c'est le cas de ce qui a été expérimenté autour des bandes musicales et tout ça, à Gradignan, typiquement. Ben voilà, c'est parce qu'on a rencontré d'autres personnes qu'on a pu innover, concevoir une borne, quitter le monde professionnel de la lecture publique pour aller vers d'autres univers. Et c'est plus facile quand on se sent moins légitime à le faire tout seul. Et donc, ça, effectivement, c'était une surprise parce que oui, on aurait pu se dire, bon, on arrête. Et c'est pas du tout le mouvement. Là, c'est plutôt un investissement et une ouverture sur le territoire.
Merci beaucoup. Moi, du coup, mais ça fait en partie écho à ce que vient de dire Christophe, enfin la question de Christophe et à votre réponse, mais vous faisiez une analyse du coup sur la taille des établissements. J'imagine aussi que ça peut ou pas se corréler avec la question rurale-urbain. Enfin voilà, moi c'était aussi un angle d'analyse des résultats que vous aviez eus. Je voulais savoir si vous l'aviez exploré particulièrement ou pas.
Oui, alors, souvent, c'est corrélé et ça se retrouve aussi dans les activités des BDP, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui soutiennent ça aussi. Effectivement, en tout cas, ce qui est prégnant dans les actions des bibliothécaires, c'est que ça peut ne pas être vrai, en plus. C'est quand ils ont le sentiment d'être les seuls sur lesquels ça repose. Ça peut être le cas aussi quand on est une bibliothèque de banlieue dans laquelle on a le sentiment que vraiment ça va mal. Donc ça, on a vu ça aussi en banlieue de Dole, par exemple. On se dit, bon, là, pourtant, Dole, les banlieues de Dole ne sont sans doute pas si terribles que ça, mais ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose à faire et que ça repose vraiment sur leurs épaules. Donc c'est une définition qui n'est pas objectivée. C'est la façon dont les professionnels définissent cette situation-là qui est importante. Alors, c'est souvent vrai dans les territoires ruraux, surtout en ce moment, parce qu'on se dit, bon, là, il y a une crise rurale, tout ça, donc les bibliothécaires ne vivent pas dans une bulle, hein, donc ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour ça. Voilà. Mais on l'a retrouvé, et donc, oui, mais pas que. On l'a retrouvé aussi dans certains établissements de banlieue, où là, bon, Montreuil ou d'autres, où on se dit, bon, il faut vraiment agir, quoi. Et encore une fois, sur des publics, j'espère vous l'avez fait comprendre aussi, c'est pas toujours vrai. Enfin, La définition, elle est aussi liée à des stéréotypes de qu'est-ce que sont les jeunes, et pas toujours sur des actions où, en fait, il y aura vraiment quelque chose à faire sur le désert d'écoute musicale. Mais là, il faut lire des travaux de sociologues et tout ça qui expliquent ça bien. La jeunesse est un moment d'effervescence en matière d'écoute musicale. Alors, on peut s'intéresser du coup à certains jeunes qui vont en être privés, c'est sûr. Mais globalement, pour les jeunes, ça va. C'est pas forcément les pires. Peut-être on peut s'intéresser aux personnes âgées, ce que font certains établissements aussi. Mais c'est plus compliqué, là, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait écouter de la musique à des personnes âgées quand on fait du concert, par exemple. Pourtant, l'effondrement des pratiques culturelles, ça concerne aussi les personnes qui vieillissent, par exemple. Pas les jeunes.
Oui, je voudrais juste rappeler que cette étude, elle a été financée par le ministère de la Culture, hein, comme c'est le cas pour des grandes études structurantes. Et c'était sur une proposition, d'ailleurs, du Conseil de coopération de la BPI. Tout ça pour dire, on parlera d'une autre étude en fin de journée. parce que c'est des préoccupations qui effectivement nous remontent, hein, bien sûr, et que la richesse de cette étude, et merci encore, va nous accompagner pour longtemps sur des mouvements de fonds structurants et qui replacent ces bibliothécaires musicaux qui sont très dynamiques, hein, quand même. On était à la CIM au mois de mars, les expériences sont vraiment extrêmement nombreuses et foisonnantes, et qui les replacent peut-être plutôt, ils ont toujours été à côté comme le sont les vidéothécaires. En fait, moi, je dis qu'ils sont un peu devant maintenant, parce que cette dématérialisation et ce choc que ça provoque et ce repositionnement vers la médiation, finalement, c'est un mouvement de fond qui ne concerne pas que leur secteur et leur domaine. Et sur la question de que vont devenir aussi les espaces cinéma, on va vous annoncer très vite, parce que là aussi, il y a une très grosse préoccupation, on va vous annoncer, le ministère, hein, avec un autre partenaire, le lancement de plus qu'une réflexion, enfin quelque chose de très participatif, parce qu'il faut travailler là-dessus de manière assez urgente maintenant, à la lumière justement de ce type d'études et de tout ce qui se passe du côté de la musique. Et puis, on est en train de mettre à jour cet ouvrage sur construire, rénover une bibliothèque aux éditions du Moniteur. Moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on met dans cet ouvrage sur ce que deviennent ces espaces son et cinéma? Et je pense que la BPI se posera la question, va se poser la question de manière aiguë. Donc, c'est vraiment une préoccupation qui traverse toute la profession et qui dépasse le cadre strict d'un secteur avec un profil de métier. C'est toute une évolution globale.
J'en profite pour remercier les services du ministère qui nous ont bien aidés à construire notre base de données de départ. Ah, c'est vrai, c'était super. Ah, merci.